France Culture.
J'ai appris l'alphabet dans un livre de prière. Est-ce pourquoi j'ai pour la lecture une telle ferveur? Sans doute. Mais pas seulement. J'ai précieusement conservé le premier livre que j'ai reçu enfant. J'aimais le lire loin des yeux des parents et des précepteurs. Je le gardais caché dans ma poche. Je me chuchotais ce qu'il allait me dire, les premières phrases. Puis je l'ouvrais. Tout commençait exactement pareil, mot à mot. Je poursuivais. Je retrouvais ce que je savais. Et en même temps, je progressais dans l'inconnu. J'en avais les larmes aux yeux de bonheur. Je me souviens que je me disais, à lire et relire ces passages à la fois familiers et neufs, « Sauvé ! Je suis sauvée !»
La lectrice adjointe, Chantal Thomas.
L'électrice.
J'ai toujours donné un pouvoir aux mots qui pouvaient parfois être problématiques. C'est-à-dire qu'il y a des mots que je n'arrivais pas à prononcer, encore maintenant. Les mots sont très vivants, ils viennent, quoi. Ils vivent, ils tournent, ils vont d'un livre à l'autre.
Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani, réalisée par Anne Pérez.
C'est très sensoriel, la lecture. Je sais pas, je me souviens d'avoir fait des rêves complètement fous. Je sais pas, j'ai vraiment, encore une fois, des sensations très physiques, corporelles.
J'aime bien lire en cassette sous ma couverture.
Lectrice. Épisode 2, exercice critique.
La figure de la lectrice telle qu'elle va émerger, c'est peut-être une figure qui naît de la Révolution et des potentiels ouverts par la Révolution.
Marie Baudry, enseignante-chercheuse.
À savoir celui où tout le monde peut accéder aux mêmes choses, une sorte d'ouverture égalitaire à tout. Et donc, au même livre, chacun va pouvoir tout lire, puisque c'est une sorte de... Enfin, une révolution dans tous les sens. Il y a la révolution politique, bien sûr, mais cette révolution économique aussi, qui va permettre à tout le monde d'accéder à un livre bien moins cher, et puis d'une éducation qui commence à s'ouvrir quand même un peu plus, donc une ouverture, une révolution sociale. Donc, ça va faire de la lectrice une des figures possibles, une sorte d'enfant de la révolution, en quelque sorte.
L'alphabétisation amène les femmes dans les affaires de leur siècle. En pleine instabilité politique et sociale, elles prennent corps entre les pages des livres. Elles vont participer à cette autre révolution qui bouleverse la première moitié du XIXe siècle, le roman. Elles vont en être pleinement, y vivre, y ressentir les échos de leur vécu, jusqu'à s'adresser à ces auteurs, au travers de qui elles se reconnaissent. La lectrice, enfin, prend place en littérature.
Alors, il faut repartir de ce qu'offrent à lire ces grands romans du début du 19e siècle.
Judith Lioncan, historienne, directrice d'études à l'EHESS.
Ces romanciers inventent, je pense surtout à Balzac et à George Sand pour commencer, des romans qui à l'époque peuvent être considérés comme des romans de mœurs, c'est-à-dire que ça raconte des histoires de la vie d'aujourd'hui. Ou de la vie d'hier à peine transposée aujourd'hui, puisque la plupart des romans de Balzac se passent quelques années avant le temps de la lecture. Mais ce sont des romans qui parlent aux lecteurs et aux lectrices de leur expérience vécue, qui peut être d'ailleurs aussi leur expérience historique, c'est-à-dire la traversée de la Révolution, de l'Empire, donc les changements de fortune que ces changements de régime ont suscité, l'instabilité politique. Donc tous ces romans tendent à la société des premières décennies du XIXe siècle, à un miroir de quantité de situations dans lesquelles les lecteurs peuvent s'identifier, de personnages, de types sociaux. Donc ça explique pourquoi, lisant ces romans, des femmes ont pu se dire « mais c'est de moi que ça parle » ou « ça me parle, je ressens un besoin vital ». De m'adresser à celui qui a créé ce personnage ou qui a raconté cette situation pour lui dire « je partage cette situation, je voudrais que vous en parliez davantage, je me confie à vous parce que mon cœur est trop lourd et j'ai besoin de me décharger ». Donc il y a quelque chose d'une sorte de captation d'une parole qui en plus peut se formuler du fait de l'accès à l'alphabétisation, qui est tout à fait singulier. Enfin, en tout cas, un modèle de communication que j'avais appelé une sorte de communication romantique, on va dire, qui se met en place et qui probablement ne s'est jamais arrêtée.
Je vous parle comme un sincère ami et je m'étonne ainsi moi-même de laisser courir ma plume. Depuis que j'ai reçu votre lettre, Il me semble que vous ne m'êtes plus inconnue. Je crois vous avoir rencontrée quelque part, prête à gravir une montagne rude et escarpée. Ne m'avez-vous pas tendu la main pour m'aider à atteindre le sommet ? Vous n'êtes plus un étranger. Vous êtes un guide, un ami. Pardonnez-moi ce mot, monsieur. Fleur d'automne.
À présent, monsieur, que je vous lise les sentiments secrets de nous autres femmes cachées. Nous avons toutes pour vous la plus tendre admiration. Et si les inquisiteurs du monde nous forcent quelquefois à condamner quelques chapitres de vos ouvrages, aussitôt que nous sommes deux et dans l'intimité, nous disons à voix basse « J'aime Balzac ». Balzac connaît toutes les misères de la condition des femmes. Balzac a créé Joséphine, Eugénie. Honneur à Balzac. Vive Balzac. Jeannotte.
Balzac a construit sa carrière de romancier à partir d'un texte qui fait événement, qui est La physiologie du mariage, qui est d'abord publié de manière anonyme, puis sous son nom d'auteur, qu'il invente d'ailleurs à ce moment-là, Honoré de Balzac, en 1829, et qui est un texte qui est extrêmement étonnant, puisque c'est un texte en fait qui dénonce les méfaits du mariage arrangé, du mariage bourgeois, et qui en plus se présente, alors c'est évidemment fictif, comme construit à partir d'une série de confessions que des femmes auraient faites à un auteur célibataire, donc qui serait une sorte d'oreille réceptive aux plaintes et aux malheurs des femmes. Donc on a un dispositif de communication dans le roman qui est en fait très vite répliqué dans la circulation du roman, c'est-à-dire qu'il y a des lectrices qui vont écrire à l'auteur de La physiologie du mariage, parfois même sur les enveloppes ou sur les adresses, c'est à Monsieur de Balzac, auteur de La physiologie du mariage, qui est confondu avec le narrateur du livre. Et donc, ce sont des femmes qui vont raconter, en effet, les malheurs de leur mariage. Bon, je pense à une, par exemple, qui a écrit plusieurs lettres très intéressantes à Balzac, qui utilise un pseudonyme, donc on ne sait pas qui c'est, qui s'appelle Louise Haber, qui donc commence par lui expliquer que il lui arrivait à peu près la même chose que Madame de Mortsauf, sauf qu'en fait elle n'en parle pas, parce que c'est à peu près au moment de la publication d'Ulysse dans la vallée. Donc elle a été mal mariée avec un homme dont elle dit qu'il a des passions toutes physiques, donc il va voir des prostituées, qu'elle s'est donc retrouvée extrêmement solitaire à Paris, dans une grande ville qu'elle dépeint comme quelque chose de très violent. Et vers l'âge de 30 ans, elle rencontre, on introduit auprès d'elle un jeune homme qui la bouleverse sensuellement et puis sentimentalement. Et elle ne sait pas quoi faire avec ça. Il y a cette idée qu'au fond, on va transformer son malheur en quelque chose de créatif. Et donc, il y a quelque chose que j'ai identifié comme une espèce de désir de publication, mais un désir de publication un peu secondaire, qui consiste à servir de modèle ou d'inspiration. Alors, c'est pas vraiment le modèle de la muse, mais elle veut lui donner du matériel, ce qui est une sorte de compensation symbolique à son malheur, si je puis dire. Donc, souvent, elles disent, d'ailleurs plusieurs le disent, « Si vous publiez ma vie, au fond, ce sera une consolation. » Et donc, c'est ça qu'elle demande, en fait. Elle demande « Publiez-moi, publiez ma vie. »
Tandis qu'elle est pudiquement installée à son métier à tisser, le jeune homme a tout le loisir de l'admirer. Au souvenir exalté de cette scène se mêle déjà le pressentiment du malheur à venir. Sous l'emprise de sentiments contradictoires, Félix devine la complexité d'une femme soumise à ses devoirs et tentée par la passion. Je puis vous crayonner les traits principaux qui partout eussent signalé la comtesse au regard, mais le dessin le plus correct n'en exprimerait rien encore. Sa figure exige l'introuvable artiste de qui la main sait peindre le reflet des feux intérieurs et sait rendre cette vapeur lumineuse que la parole ne traduit pas, mais que voit un amant. Son front arrondi, proéminent comme celui de la Joconde, paraissait plein d'idées inexprimées, de sentiments contenus, de fleurs noyées dans des eaux amères. Habituellement recueillie, attentive comme la sentinelle sur qui repose le salut de tous et qui épie le malheur, il lui échappait parfois des sourires qui trahissaient en elle un naturel rieur, enseveli sous le maintien exigé par sa vie.
Le Lys dans la vallée, Honoré de Balzac.
Et par la suite, Balzac va construire toute une série de types féminins dans ses romans, la plus célèbre d'une certaine manière étant la femme de 30 ans, qui est aussi Madame de Mortsauf dans le Lys dans la vallée, qui sont donc ces femmes qui ont des mariages sociaux,
arrangé, malheureux, et qui, à un moment donné, donc à 30 ans, alors il faut voir qu'on se mariait beaucoup plus tôt au 19e siècle, donc à 30 ans, une femme, elle avait déjà une vie conjugale longue derrière elle, éventuellement, à 30 ans, se trouve dans une espèce de désespoir sentimental. Et c'est l'affaire d'Ulysse dans la vallée, c'est cette espèce de solitude sentimentale de Madame de Mortsauf qui rencontre un jeune homme qui est éperdument amoureux d'elle et qui ne sait pas quoi faire avec cette passion, qui en même temps la trouble sensuellement et énormément. Et donc ce dispositif-là va susciter des confidences de lectrices qui évidemment sont des sources extrêmement intéressantes pour les historiens, et moi c'est ça que je cherchais, sur la condition féminine au XIXe siècle, même si ce sont des femmes très particulières, puisqu'elles ont le courage d'écrire un romancier, elles ont les capacités de le faire, parfois d'ailleurs elles ne sont pas des très bonnes écrivantes, mais en tout cas ce sont de bonnes lectrices, et elles écrivent les malheurs de leur mariage.
J'ai un mari que je n'aime pas, et que je n'ai jamais aimé, dont je suis séparée par la loi, mais auquel je me crois encore engagée parce que nous avons été unis par l'Église et que j'ai de la religion. Cette religion m'impose des devoirs, mais elle ne m'a pas prémunie contre mon propre cœur. Et c'est l'histoire de ce cœur que je vous dévoilerai, monsieur, si j'osais. Lettre de Julie de Saint-Gé.
Pardonnez-moi, mon père, j'ai péché.
Dites-moi, ma fille.
Je réfléchis, mais je ne vois pas ce que j'ai à confesser. Est-ce péché, mon père, que d'espérer un grand amour?
Non, si aucune mauvaise pensée n'y est attachée.
C'est aussi la période où George Sand entre en littérature avec un roman du mariage malheureux, qui est Indiana, 1832. Donc, il y a vraiment un sujet littéraire qui correspond également au développement d'un genre romanesque qui devient un produit de consommation de plus en plus large. On est légèrement avant l'invention du roman feuilleton, mais ça va évidemment se développer encore plus avec le roman feuilleton à partir de 1836. Donc on a là, dans ce début des années 30, qui est aussi une période, je dirais, de rattrapage après la période très contrainte de la Restauration, qui est aussi une période où, en tout cas jusqu'en 1835, il y a une plus grande liberté politique, donc une plus grande liberté de publication imprimée, où il y a une parole qui circule sur la condition féminine.
Je suis une de ces créatures faisant partie des 9 millions que votre aristocratie rejette hors la société, comme des espèces animales. Paria femelles, qui balayent leurs chambres, font la cuisine, et par conséquent ne sont pas dignes de comprendre, ni d'inspirer l'amour. Le mal que vous nous avez fait, oui, du mal, un mal réel. Car quel jeune homme osera se marier après vous avoir lu? Aussi, quel compte vous aurez à rendre à Dieu, que de vie nulle, triste et froide? Et quand dans une trentaine d'années, on verra la société mourir, peuplée de ces pauvres ombres de vieilles filles. Monsieur de Balzac, mettez-vous à genoux, le front dans la poussière, et faites, dans toute l'humiliation du repentir, un acte de contrition et le mea culpa. Irma.
Les lectrices de Balzac, elles sont tout à fait prises dans la question des types féminins construits par Balzac, c'est-à-dire la femme de 30 ans d'un côté. Puis alors il y en a une autre dont je n'ai pas parlé, qui est un problème pour beaucoup de lectrices, qui est la vieille fille. Parce que donc c'est le titre d'un des romans de Balzac et c'est un personnage, Rose Cormon, qui est un personnage assez compliqué. Il y a des lectrices qui peuvent être définies comme des vieilles filles, c'est-à-dire des femmes qui ne se sont pas mariées, souvent parce qu'elles n'ont pas pu se marier, c'est-à-dire que c'est un sacrifice à l'intérieur de la famille pour que la dot puisse aller à une sœur peut-être plus jolie, plus... bon. Ou qu'il y ait une des filles qui reste pour s'occuper des parents, ça peut être pour des tas de situations. Et elles voudraient que Balzac dépeigne les vieilles filles de manière plus positive. Et donc elles s'adressent à lui en disant « Mais changez, donnez-nous quelque chose de plus positif, expliquez pourquoi nous sommes comme ça. »
Daignez-nous réhabiliter dans l'opinion. Si un trait piquant nous a rendu un sujet de risée en nous montrant que nos travers... Votre persuasive éloquence assure un nouveau triomphe en nous rendant plus de justice et en nous plaçant dans le vrai jour où l'on peut juger des effets par les causes. Et au lieu de ne présenter que cette vieille fille égoïste qui s'est soustraite aux douleurs poétiques, montrez-nous cette fille forte de son utilité en soignant une mère malade, un père infirme ou une sœur souffrante, et en se refusant au plus doux lien et à toutes les espérances de l'avenir pour se livrer aux devoirs les plus saints et les plus sacrés. N'a-t-elle pas plus souffert en repoussant la poésie de la vie pour se conserver à ses pénibles devoirs qu'elle ne l'eût fait comme mère de famille ? Mademoiselle Adèle, une vieille fille au nom de toutes les vieilles filles de sa province.
C'est vrai que dans certaines lettres aux écrivains, on trouve une liberté de ton ou de rage, en fait, contre la situation qui est faite aux femmes. Donc, il y a toute une misère qui n'a pas vraiment d'interlocuteur, en réalité, à qui l'adresser. Donc, parfois, on a un peu l'impression que ce sont des bouteilles jetées à la mer, enfin, et que les écrivains sont ceux auxquels on s'adresse à défaut de pouvoir s'adresser à quelqu'un d'autre, enfin, parce qu'ils sont là dans l'espace public, parce que ce sont eux qui parlent de certaines misères dont on ne parle pas. C'est vrai aussi pour les hommes, d'ailleurs. Et ils sont connus, ils deviennent célèbres, donc peut-être qu'ils peuvent faire quelque chose. Peut-être qu'ils peuvent aider à publier, peut-être qu'ils peuvent soulager une misère, peut-être que voilà. Donc il y a aussi une espèce de... Ça tient aussi au fait que ces romanciers du début de la monarchie de Juillet acquièrent une notoriété considérable.
La question, monsieur, est que je ne vous aime pas, que je n'en ai pas le projet. Maintenant que les circonstances ont fait de moi une femme libre, je peux tout aussi librement vous le dire.
Une femme de votre âge peut rester seule.
J'ai appris d'expérience que la solitude pour une femme vaut mieux que la compagnie d'un homme auquel elle n'est liée par aucun sentiment, mais par les seules convenances. Je ne serai ni votre chose, ni votre hochet, ni votre animal de compagnie.
Alors, il y a beaucoup de lectrices aussi chez Eugène Sue qui font ça, notamment pour les filles mères. Toutes ces femmes qui ont un statut social dégradé du fait de leur position, de s'être retrouvée enceinte sans avoir pu se marier, ou d'être elle-même bâtarde d'un couple qui ne s'est pas marié. Toutes ces femmes qui sont aux marges de la situation conjugale normale, on va dire, ou normée, et qui souhaitent en réalité que le roman à la fois leur donne une visibilité et leur donne raison d'une certaine manière, les justifie, les valorise.
J'ai lié mon sort à un homme une fois et jamais plus cela ne se reproduira.
Aucune société n'acceptera de fréquenter une femme seule. Il l'usait de son plein gré.
Mais croyez-vous que j'en ai besoin de cette société ?
Mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant ?
Ah, dites-moi, vous, ce que peut une femme, cet être faible et si malheureux, condamné dès le berceau par la nature, la loi, la société, à toutes les infirmités et à toutes les douleurs. Que peut la femme ? Quelles sont les carrières qui lui sont ouvertes ? Quel est l'avenir qui lui est réservé quand, abandonnée, ruinée, déchue, elle est forcée d'errer de climat en climat pour cacher ses cruelles déceptions et ses larmes amères? Son avenir est une atroce agonie après laquelle elle succombe, exposée qu'elle est aux mille dangers d'une pressante misère. Sophie Damnour à Eugène Sue.
Alors, chez Eugène Sue, il y a ça, il y a notamment par rapport à son roman qui s'appelle Mathilde. Et puis, chez les lectrices des Mystères de Paris, qui est le grand roman qui suscite un courrier très très important, c'est tout à fait autre chose. On a affaire à des lettres très intéressantes de femmes plutôt du milieu populaire, qui peuvent être des couturières ou des femmes qui voisinent avec la grande misère populaire. Et qui, un peu comme Rigolette dans les Mystères de Paris, qui est la grisette au grand cœur, écrivent à Eugène Sue pour lui signaler de très grandes misères à Paris et pour que Eugène Sue mobilise son réseau philanthropique qu'il a pour venir en aide à certaines personnes de la même manière que dans le roman. Donc il y a une réplication des situations du roman, ce qui est sa grande force. Rigolette, en association avec d'autres personnages qui, elles, sont des femmes de la grande bourgeoisie ou de l'aristocratie, vient en aide notamment à la famille de ce qui est le personnage le plus malheureux des Mystères de Paris, qui est la famille du lapidaire Morel, qui meurt de faim dans une mansarde au sixième étage d'une maison de la rue du Temple.
Je souffre horriblement. J'ai l'âme navrée. J'ai tout perdu par la faute d'un mari. Je suis maintenant sans rang, sans nom, femme par la loi, veuve par le fait, mère sans enfant, seule, étrangère partout, forcée d'aller de rivage en rivage offrir mes faibles talents en échange d'un morceau de pain que l'on me fait payer bien cher. Née en haut de l'échelle sociale, j'en suis descendue au dernier échelon, et il n'y a plus qu'un pas à faire pour franchir ce faible rempart qui me reste entre la misère et l'opprobre. Sophie Damnour à Eugène Sue.
On est dans quelque chose qui est, disons, je dirais, plus du côté des luttes sociales. Enfin, les luttes des femmes pour leur situation sont aussi des luttes sociales, mais là, on est plutôt dans la question des différences sociales, de la misère populaire, et ce sont des femmes qui sont au contact de la misère populaire sans y être tout à fait. Ça, on n'a pas du tout ça dans la correspondance de Balzac. Il faut bien voir que les courriers de lecteurs conservés, en tout cas, sont un peu des miroirs des univers romanesques auxquels les femmes sont sensibles, s'adressent. Alors du coup, les lectrices de George Sand, par exemple, d'une part, ce sont des femmes qui, pour certaines, dénoncent aussi la violence du mariage. Et puis, ce sont des femmes qui vont trouver en George Sand, surtout en George Sand plus vieillissante, une espèce de modèle à la fois de... entre la sororité et la maternité, de modèles d'âmes-sœurs, et qui vont donc s'adresser à elle comme une espèce de Rousseau au féminin.
À Mademoiselle Leroyer de Chantepie. Mademoiselle, j'ai reçu à Paris, où je viens de passer quelques jours, la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'écrire il y a 2 mois. Je trouve la société livrée au plus affreux désordre, et entre toutes les iniquités que je lui vois consacrées, je regarde, en première ligne, les rapports de l'homme avec la femme établis d'une manière injuste et absurde. Je ne puis donc conseiller à personne un mariage sanctionné par une loi civile qui consacre la dépendance, l'infériorité et la nullité sociale de la femme. Que ce soit la loi, que ce soit la morale reconnue généralement, que ce soit l'opinion ou le préjugé, la femme, en se donnant à l'homme, est nécessairement ou enchaînée ou coupable. Que la femme, pour échapper à la souffrance et à l'humiliation, se préserve de l'amour et de la maternité, c'est une conclusion romanesque que j'ai essayée dans le roman de Lélia, non pas comme un exemple à suivre, mais comme la peinture d'un martyr qui peut donner à penser aux juges et aux bourreaux, aux hommes qui font la loi et à ceux qui l'appliquent. George Sand.
Elles expriment des frustrations dans les lettres. Ce sont des lettres qui sont liées à des formes d'inertie sociale. Les choses ne bougent pas. Et c'est comme si les espoirs qu'avait pu susciter la révolution de 1830, le changement de régime, qui en réalité n'en est pas un, enfin, c'est pas la restauration, mais on est quand même toujours dans un régime monarchique, censitaire, avec un droit de vote qui est extrêmement limité, il y a quelque chose d'une exaspération de l'inertie sociale, en fait. Des lourdeurs du mariage arrangé, du mari qu'on s'est vu imposer par sa famille et dont on ne veut pas. Du fait d'avoir eu des aspirations artistiques dans sa jeunesse, se retrouvant marié, éventuellement mère de famille, de tourner en rond, tout simplement, ou de ne pas arriver à vivre de sa plume, ce qui est un autre type de frustration. C'est des lettres du malheur, hein, c'est des lettres du malheur social, mais qui sont pas nécessairement de l'extrême malheur, mais ce sont des lettres plutôt de la petite désespérance de tous les jours. C'est aussi pour ça qu'elles sont extrêmement touchantes, parce que on a accès à des expériences sociales qu'on ne voit jamais quand on est historien. On voit des choses extrêmes. On voit pas les petits malheurs de la, enfin, comme c'est un titre d'un roman de Balzac, les petites misères de la vie conjugale. On voit pas ça. Ça laisse pas de traces. Les journaux intimes étant le lieu du plus grand contrôle de soi, c'est assez rare que les lectrices laissent des femmes de la petite frustration ou de l'humiliation aussi. Je pense à Louise Abert qui est humiliée parce que son mari va voir des prostituées. Et les femmes ne parlent pas de ça. Donc c'est ça à quoi on accède en fait.
Mais croyez-vous que j'en ai besoin de cette société ?
Mais qu'est-ce que vous allez faire ?
Voyager, monsieur. Ouvrir mon horizon.
Après, on ne peut que interpréter ce qu'elle cherche en faisant ça. Elle cherche peut-être à avoir une réponse, peut-être à attirer l'attention sur elle. Ça prouve que la sensation qu'elles ont eue, qui est de rencontrer l'auteur sur la page, qui est une expérience propre à la lecture moderne, dans un livre imprimé, donc où il n'y a aucune trace singulière de la personne. Un livre, c'est un produit industriel. Mais il se trouve que ces femmes, et c'est notre expérience de la lecture, on lit quelque chose et on se dit « Ah, c'est pour moi ». En fait, là, c'est moi, c'est de moi qu'on parle. Et quand elles écrivent à un écrivain et qu'elles attendent une réponse, en fait, la réponse dit « Je reconnais d'une certaine manière que vous avez eu raison. C'est bien à vous que j'ai parlé ». Et c'est probablement une forme, disons, d'apaisement. Voilà. Cette réponse de l'écrivain qui dit, voilà, je vous ai entendu, je vous reconnais, et elles vont garder peut-être ces lettres comme des trésors. Il y a une lectrice de Gensu qui est une poétesse assez, intense dans sa manière d'écrire, qui s'appelle Fanny Denoy, qui est une poétesse locale de Beauvais, la muse de l'Oise, comme on l'appelle. Elle décrit le coffret dans lequel elle garde les lettres de Gensu, comme son trésor.
Mourir pour ne plus relire mes chères petites lettres, pour ne plus parsemer de fleurs votre précieux envoi, pour ne plus m'entourer de tous ces bons souvenirs qui doublent la vie, c'est cruel. Si vous me faites la visite que vous me devez, monsieur, oh oui, vous viendrez. Laissez-moi ce précieux espoir. Vous me trouverez au milieu des objets de mon culte. Ma chère et noble correspondance repose dans une boîte que je ne donnerai pas pour le diadème d'une reine. Cette boîte est toujours couverte de fleurs, comme un tombeau chéri. À côté est une table voilée d'un joli tapis où sont rangés les mystères de Paris illustrés, où viennent briller les fleurs que l'été me donne, que l'hiver me laisse. Les jours de tristesse, de découragement, d'amer abandon, je cours à ces trésors avec bonheur. Je les revois avec ivresse et il semble qu'ils s'animent sous ma main, sous mes pleurs, et qu'ils me consolent. Fanny Denoy à Eugène Du.
Je lis plein de livres, en fait. C'est ça le problème.
La lectrice, l'électrice.
C'était Celles qui lisent, épisode 2, exercice critique, avec Marie Baudry et Judith Loncan. Lecture de Claire Vernet, Guillaume Gallienne, Marjorie Delarquier, Pascaline Bonnet, Claire Prinsigneux, Anaïs Isbard. Prise de son, Sandrine Malon, Éric Villenfin, Sébastien Royer. Mixage, Éric Boisset. Documentation, Anne Signoret, Antoine Willows. Archivina, Mylène Touchet. Chargée de programme, Marie-Vonna Bolivier et Anaïs Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. Celles qui lisent, une série documentaire d'Hélène Goutani et Anne Pérez.